C'est un chapitre terrible.
Oui, oui. Alors, nous allons lire d'abord 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, voyons un peu ces trois premiers versets. Le commencement de ce chapitre avertit le lecteur qu'il ne va pas être question de rappeler l'enseignement élémentaire de la doctrine chrétienne. Précédemment, le texte nous a dit qu'il y avait des choses difficiles à expliquer. Ce ne sont pas les choses élémentaires qui sont difficiles à expliquer. Mais tout de suite, le texte propose d'aller plus loin et de tendre à ce qui est parfait. Ah, ce qui est parfait, c'est ça qui est difficile à expliquer. C'est-à-dire de dépasser le stade de la connaissance de base pour s'efforcer de pénétrer les vérités les plus élevées et sans doute les plus difficiles à expliquer. Et ainsi qu'à bien comprendre, difficile à expliquer, difficile à bien comprendre. Tendre vers la perfection, c'est rechercher la connaissance profonde de toute la révélation de Dieu. On ne se rend pas compte, d'une façon générale, courante. N'oubliez pas que l'ennemi est en train, là, il a une poudre spéciale, n'est-ce pas ? Et qu'il est en train de jeter comme ça, et puis celui qui la respire, eh bien, il s'endort, hein, et il perd sa faculté de bien discerner les choses. Méfions-nous de la poudre de l'ennemi. Alors, tendre vers la perfection, c'est donc rechercher une connaissance de toute la révélation de Dieu. La Bible est la révélation de Dieu. C'est une révélation. C'est pas un livre qui parle comme le font ceux que les hommes écrivent de leur propre chef, librement. Non, c'est un livre de Dieu. Par conséquent, il apporte la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle contient, elle va nous livrer la révélation de Dieu. Nous voyons ce qui était considéré comme le fondement dans l'Église primitive. C'est ce que cite le texte, là. Le renoncement aux œuvres mortes. Bon, ça appartient au fondement. On ne peut pas être chrétien si on ne renonce pas aux œuvres mortes. Alors là, ce n'est pas la peine de parler de conversion. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, l'enseignement relatif au baptême au pluriel, c'est-à-dire au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit, l'imposition des mains qui suivait le baptême d'eau dans l'Église primitive, c'était ainsi, certaines de nos assemblées le pratiquent encore régulièrement, aussitôt après le baptême, l'imposition des mains. Et si tout était bien dans l'Église, s'il n'y avait pas de choses approximatives, formalistes, eh bien, s'il y avait une foi ardente de tous, à l'imposition des mains, le baptême du Saint-Esprit serait immédiatement donné. Non, je l'ai vu, ça. Et pourquoi n'imposons pas les mains maintenant? C'est parce qu'on n'est pas sûr que le baptême du Saint-Esprit sera donné. Pourquoi n'est-on pas sûr qu'il sera donné? C'est parce que nous faisons des choses plus selon la forme. Nous sommes devenus des formalistes. nous sont plus des choses selon la forme que selon la vérité, que en maniant la vérité de Dieu. La résurrection des morts, tout cela appartenait au fondement de la foi, de la doctrine, puis le jugement éternel. C'était là ce qu'on pouvait appeler, si vous voulez, le catéchisme. Ça, c'est le catéchisme. Sur ce fondement, l'Épître va édifier une maison qui va prendre de la hauteur. Le fondement, c'est à la base, c'est un ras de terre. Mais sur ce fondement de la doctrine, alors là, notre Épître se propose de bâtir une maison en élévation qui va prendre de la hauteur. Les chapitres suivants se proposent en effet de nous dispenser une nourriture solide, et ils vont nous faire monter jusqu'au tabernacle du ciel. La maison va prendre de la hauteur, ce ne sera pas la tour de Babel, celle-là, ce sera véritablement une ascension vers le tabernacle du ciel, où Jésus-Christ exerce son sacerdoce. Allons maintenant au verset 4 jusqu'à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, puis on finit par y mettre le feu. On pourrait peut-être lire maintenant comment s'exprime la Bible en français courant, dans ce même passage. « En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans une vie mauvaise ? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti que la parole de Dieu est bonne. » Et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans une vie mauvaise. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. C'est bon. C'est bon. C'est un avertissement solennel que nous avons là. Un avertissement qui évoque une issue terrifiante pour ceux qui ne persistent pas dans la foi. Il y a des gens qui croient encore, nous le disions l'autre soir, ou hier soir, je ne sais pas, qui persistent à professer la doctrine que nous avons appelée de l'éternelle sécurité. C'est-à-dire, quand on a cru, alors, il faudrait définir, enfin, pour eux, des gens ont cru, bon, ils sont entrés dans l'église, ils sont là, et puis, même s'ils retournent, comme dit notre Bible en français courant, à une vie mauvaise, ben ça fait rien, ils seront quand même sauvés. Ils seront sauvés comme à travers le feu, mais ils sont sauvés. Ce n'est pas du tout ce que dit ce texte. Et ce que dit ce texte est corroboré par d'autres passages de la Bible. Ce n'est pas du tout ça. Si bien que d'excellents auteurs, certains auteurs excellents, au nombre desquels nous pouvons compter Andrew Murray, un excellent auteur, eh bien, ont donné dans le panneau de l'éternelle sécurité aussi. Alors évidemment, c'est quelque chose de mauvais. Moi, j'ai écrit à une revue, il n'y a pas bien longtemps, qui disait que si un homme, il a cru, bon, il a été dans l'Église, puis voilà, il est retourné en arrière, il est parti dans sa vie d'autrefois, et puis voilà, il y a, mettons, 20 ans qu'il est retourné comme ça, hein, mais arrive sa mort, et bien il est sauvé quand même. J'ai écrit à cette revue, je n'ai pas pu faire autrement, en leur disant, mais enfin, vous êtes tombé sur la tête. Bon, c'est effarant. Et alors, comme ils ont souvent la manie de taxer les assemblées de Dieu, la Pentecôte, comme on nous appelle, de taxer d'erreurs, je leur ai montré que d'excellents auteurs qui ne sont pas de Pentecôte, comme Louis Bonnet, par exemple, qui est très connu, qui a écrit un commentaire qui a été réédité, qui est bien connu, Louis Bonnet nous dit bien que c'est là des gens qui apostasient et qui sont perdus. Ils ont cru, mais ils sont perdus. Et d'autres auteurs aussi, comme Javet, par exemple, je leur ai montré que ce n'était pas seulement la Pentecôte, c'est pas une déformation de la Pentecôte, nous n'avons rien déformé du tout. Hein? Si nous déformons quelque chose, c'est dans le courant de l'existence, malheureusement, et aujourd'hui, à cause des influences néfastes. Mais sans quoi, la doctrine que nous avons reçue est la doctrine qu'exprime la parole de Dieu. Alors, ce passage va nous mettre en face de la souveraineté du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui aime la miséricorde, du Dieu qui appelle, mais du Dieu qui n'accepte pas le retour en arrière. Rappelons encore cette parole de Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Allez, va-t'en. On ne peut pas se servir de toi. Tu ne comptes pas pour le royaume. Tu prends la charrue, tu commences à tracer un sillon, puis tu regardes en arrière. Hein? Non, on ne peut pas se servir de toi. Va-t'en. C'est une parole de Jésus, ça, n'est-ce pas, dans Luc 9, 62. Nous pensons aussi aux vierges folles, de la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25. Ces vierges, elles restèrent dehors. Elles n'entrent pas dans la salle des noces. La porte s'est refermée. Quand elles sont revenues, c'était trop tard. Elles sont parties, elles n'avaient pas d'huile, on ne pouvait pas. Devant leur nez, la porte a claqué. Fini. Pas vous. Pas vous. Et pourtant, ces vierges folles évoquent bien des personnes qui ont été dans l'Église. Alors on nous expliquera peut-être qu'elles n'étaient pas réellement converties. Bon, mais elles attendaient le Seigneur avec les autres. Et nous les voyons avec les vierges sages, nous les voyons venir toutes ensemble, les 10 viennent ensemble, elles ont des lampes, rien ne les distingue au premier abord. La porte s'est refermée et ne s'est plus jamais ouverte pour elles. Il faut qu'en méditant ce passage que nous avons maintenant à l'étude, nous soyons saisis d'une crainte salutaire. L'éternelle sécurité a ceci, justement, à ce mauvais travers, cette mauvaise conséquence, c'est qu'elle annule la crainte. On se dit, après tout, il y a même un auteur qui l'a expliqué, pas des moindres, dans un de ses bouquins. Alors, on peut se faire ce calcul, oh ben oui, moi je suis faible, qu'est-ce que vous voulez, j'aime la bonne vie, j'aime le monde, bon, dans l'Église, c'est un petit peu austère pour moi, la vie chrétienne. Moi, bon, je me laisse aller, mais enfin, je crois quand même. Oh, puis le dimanche, de temps en temps, j'irai. viens au culte, quoi. Bon, et puis ça ira bien, ben je crois, j'ai cru, je crois, et je serai sauvé, c'est sauvé comme à travers le feu, mais je serai quand même sauvé. Hein? On peut faire ce calcul, et c'est ce que nous montre un auteur américain. Il y a des choses, vous savez, révoltantes dans certains livres. Et alors, lui, cet auteur, eh ben, il nous dit qu'il y a des gens sur la terre qui n'auront jamais connu Christ. Effectivement, des gens qui sont dans cette position-là, ils n'ont pas vraiment connu Christ. Ils n'ont pas connu Christ. Mais enfin, comme ils ont cru, ils sont quand même chrétiens. Et alors, quand ils iront au ciel, parce qu'ils seront sauvés aussi, alors ils auront sur la terre aimé la bonne vie, ils auront cherché le profit. Enfin, ils auront fait comme tout le monde, hein, ils auront cherché tous les avantages qu'on peut recueillir dans le monde présent. Ils auront eu ce souci-là, en premier, au-dessus de tout. Et alors, quand ils seront sauvés quand même, ils iront dans le ciel, et dans le ciel, ils connaîtront pas davantage Jésus. Ah non, ils connaîtront pas. Hop, et puis, ils seront quand même dans l'éternité, malgré ça. Ça, c'est fantastique, ça. C'est fantastique. Je ne veux pas nommer l'auteur, parce que vous le connaissez. Hein? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, DW. Mais il faut que nous soyons saisis d'une crainte salutaire. L'entrée dans la voie du salut et dans l'Église conserve le plus grand sérieux. Si l'on n'a pas, si l'on ne regarde pas sa vie chrétienne avec le plus grand sérieux, chers amis, on n'a rien compris. Il faut le regarder avec le plus grand sérieux. Ne craignons pas par peur irraisonnée, c'est pas ça. Il ne faut pas que nous soyons constamment à trembler. Non, pour notre salut, mais non. Mais craignons tout relâchement de la foi. C'est ça qu'il faut craindre. C'est le relâchement de la foi. Une fois entré dans la maison de Dieu, il faut aller jusqu'au bout, ou bien périr avec les incrédules. Ces versets s'adressent à des hommes en qui la grâce de Dieu a agi, notre texte est précis, en qui la grâce de Dieu a agi, et qui sont tombés. Ils sont tombés. Ils ont quitté la route, ils ont quitté la bonne route en franchissant le parapet. Oui, ils ont franchi le parapet, puis ils sont retombés dans le dehors. Ils sont tombés en bas. Ils sont tombés d'une grande hauteur. À quelle hauteur étaient-ils parvenus? Eh bien, notre texte nous dit qu'ils avaient reçu la lumière de Dieu. Donc, ils étaient passés des ténèbres à la lumière de Dieu. Ils avaient goûté le don céleste, ayant eu part au Saint-Esprit. Ils avaient goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils avaient goûté tout cela, et ils ont abandonné ces richesses. Ils sont tombés de très haut. Ils sont tombés. Ils avaient été conduits à la vie de foi. Ils avaient obtenu une véritable conversion. Ou alors notre texte s'exprimerait mal. Ils avaient obtenu une véritable conversion. Ils ont purement et simplement renoncé à la grâce de Dieu. Pour quelle raison? Ah, peut-être ils se sont laissés séduire, ou l'attirance encore du monde les a happés, les a ramenés. Vous savez, les Israélites, quand ils étaient dans le désert sous la conduite de Moïse, mais ils étaient libres. Ils avaient été libérés par Dieu à main forte et à bras étendus, libérés de la servitude. Hein? Et ils étaient un peuple libre, conduit par Dieu, porté par Dieu. C'était magnifique. Ils n'avaient plus à souffrir. Et cependant, parce qu'un jour il manque un peu d'eau, ou pour une autre raison, ils se révoltent. Et puis alors ils disent, ah, en Égypte, on avait des grands pots de viande de conserve, viande salée, on avait des os, on avait, c'est-à-dire de l'ail, de l'oignon et tout ce qu'on veut, on avait des légumes à satiété, on avait tout celui-là dans ce désert, il n'y a rien du tout, il n'y a que du sable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils récriminaient, ils voulaient retourner en arrière. Voyez la tentation, la séduction de l'ennemi. Et il a fallu que beaucoup soient sanctionnés par la mort pour que l'effet d'une telle séduction prenne fin. Alors on se demande comment de telles chutes sont possibles, comment celui qui a goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, qui a reçu la grâce de Dieu, comment il a pu revenir en arrière. Eh bien, de telles chutes sont possibles lorsque la foi fléchit au point qu'elle cesse d'être une réponse à l'aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui, c'est chaque jour qu'il faut que notre foi soit une réponse à Dieu. Quand le regard de la foi se détourne de son objet, le Seigneur Jésus-Christ, nous verrons que notre épître nous dit de porter nos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Mais quand la foi se détourne de son objet, le Seigneur Jésus-Christ, alors là, les chutes sont possibles. Et comme le dit Pierre, le chien retourne à ce qu'il a vomi. De tels hommes ne peuvent pas être renouvelés, nous dit notre texte, car leur apostasie, c'est cela. L'apostasie, c'est la démission de la foi, c'est l'abandon de la foi. Leur apostasie est une crucifixion consciente du Fils de Dieu. Jésus a prié pour ses bourreaux. Père, a-t-il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais quant à ceux à qui notre texte s'adresse, eux, ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être renouvelés. Ceux qui crucifiaient le Seigneur Jésus ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais là, ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être renouvelés. Parce que, sachant ce qu'ils font, ils crucifient consciemment le Fils de Dieu. En quelque sorte, on peut dire que ces gens-là se sont suicidés spirituellement. Les versets 7 à 8 montrent par une image que la réprobation de Dieu n'est pas immédiate. Quand de tels événements, de telles choses se produisent, quand des gens retournent comme ça en arrière, la réprobation de Dieu n'est pas immédiate. La malédiction vient après un certain temps de patience. C'est ce que nous a montré, les versets 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle cultivait. Alors ça, c'est l'image d'une vie qui honore Dieu, la vie d'une personne humaine convertie. Bon, alors ça produit une herbe utile, ça produit un fruit. Alors là, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, si un beau jour cette terre qui produit l'herbe qu'on attend, le fruit qu'on attend, elle se met à être envahie par les épines et les chardons, alors d'abord, c'est une réprobation, elle est réprouvée. Dieu la couvre par une réprobation. Et puis, elle est prête d'être maudite. La réprobation annonce une malédiction, et la malédiction, c'est la fin. Donc, mais la malédiction est annoncée. Réprobation est prête d'être maudite, une malédiction est annoncée, et Si rien ne change, on finit par y mettre le feu. Si à ce moment-là quelque chose changeait, s'il y avait un retour, et nous avons vu ça, des gens qui avaient tout abandonné, tout reparti, des gens qui avaient eu une place éclatante au milieu du peuple de Dieu dans l'Église. J'en ai connu une place magnifique, et puis qui étaient retournés aussi au monde. Mais avant que la malédiction ne les atteigne, Dieu avait mis sur leur chemin des occasions de revenir en arrière. Et je pense à cet homme que nous avions vu un jour dans l'assemblée de Castres, qui faisait de belles prières. C'était étonnant, un nouveau venu, n'est-ce pas ? On entendait monter de sa bouche des prières excellentes. Tiens, tiens. Et alors, je me suis informé de savoir qui il était, d'où il venait. On m'a dit, c'est un homme qui, autrefois, dans l'Église, a été brillant par sa fidélité, sa foi, l'exercice qu'il faisait des dons spirituels. Et puis, un beau jour, on n'a pas compris, il est retourné en arrière. Et puis alors, il est retourné dans les lieux qu'il connaissait, qu'il avait fréquentés, où il avait là vécu une vie dissolue, sur la côte d'Azur, c'était quand. Et puis, Dieu, l'avait travaillé, et il était remonté là par là jusqu'à Castres. Et il se trouvait un jour dans un café, au comptoir du café. Fréquentait beaucoup les cafés, buvait. Et puis voilà des jeunes gens qui viennent, ils avaient un prospectus, on avait organisé à l'église certaines réunions d'évangélisation, et puis alors il y a un petit jeune homme qui vient vers cet homme-là, accoudé au comptoir, et qui lui présente un prospectus. Il lui dit, voyez, monsieur, il y a des réunions évangéliques, on vous invite à y venir. Alors, il prend le papier, il le froisse, il le jette. Bon, les jeunes s'en vont. Mais voici que l'esprit le travaille. Alors, il ramasse le papier, il regarde en tremblant, et il sent Dieu l'appeler là. À cette réunion d'évangélisation. Et il n'a pas pu faire autrement que d'y aller. Et là, Dieu l'a remis à flot. C'était magnifique, n'est-ce pas ? Dieu l'a remis à flot. Mais attention, il était prêt d'être frappé de la malédiction. Il l'a dit après, il l'a connu après. Un peu plus, et la malédiction le frappait, et c'était fini. Voilà donc des choses qu'il faut considérer avec le plus grand sérieux.